Bonjour, et nous allons donc reprendre nos études dans la Genèse après bonne interruption. Alors Philippe nous a conduits dans des lectures un peu longues. On va les garder à l'esprit parce que ces lectures vont nous servir dans quelques semaines plus comme base par rapport au texte. Mais aujourd'hui, on va dans la Genèse chapitre 16 et je vais lire tout le chapitre, là encore. Donc Genèse 16. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendue stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta El Hoï, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vue? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Acharoï, qui est entre Kadès et Barède. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Voilà, nous reprenons cette étude donc dans la Genèse, et ce matin on a donné comme titre, pour nous frapper un peu de la pensée, le Dieu qui attend et le Dieu qui entend. Parce qu'en fait, on va voir que ce sont les deux caractéristiques qui sont soulignées dans ce passage, dans ce chapitre. Alors, on a eu une petite interruption, enfin une bonne interruption, mais je ne vais pas reprendre un résumé complet des études qu'on a faites dans la Genèse. On a les enregistrements des messages qui sont disponibles pour cela. Je veux seulement souligner le cadre dans lequel nous évoluons. Parce que, à strictement parler, nous ne sommes pas engagés dans une étude du livre de la Genèse en tant que tel. On n'a pas commencé au chapitre 1. Mais on regarde plutôt dans ce livre, on étudie plutôt le développement du dessein de l'alliance divine de rédemption dans la vie d'Abraham et celle de sa famille. L'idée n'est pas tant de s'attarder sur les expériences et les incidents qu'a connu le patriarche et ses descendants, mais c'est plutôt de voir comment Dieu avance son dessein de grâce à travers la ligne de la promesse, dans la Genèse, tout au moins. Et en fait, toute la révélation biblique s'arrange autour de ce que j'appellerais une échine centrale, un lien. Le Père a pour dessein grandiose et éternel de glorifier le Fils de son amour. Et il a comme dessein de le glorifier au travers du rachat d'un peuple issu d'une race qui s'est vendue à l'asservissement vil du péché. On a vu ça dans la lecture de Galates, n'est-ce pas? Ainsi, la chute de l'homme dans le péché est supplantée en importance immédiatement après par la promesse d'un libérateur, la postérité de la femme, qui se glorifiera en renversant les effets de la rébellion, les effets de la chute, et en remportant une victoire complète et définitive sur les ennemis de Dieu. Tout s'articule autour de cet axe majeur, cette alliance de grâce qui va de la première page à la dernière page de la révélation biblique et du premier moment jusqu'au dernier de l'histoire du peuple de Dieu. Tout s'articule autour de cela. Si toutes nos questions n'y trouvent pas une réponse immédiate, au moins tous les sujets qui peuvent se présenter à nous y trouvent une orientation qui permet d'attendre l'heure de Dieu pour révéler la vérité. Par exemple, on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a permis la chute? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le diable? Et des choses comme ça. Et si on sort de notre axe majeur ici, l'alliance de grâce, le dessein que Dieu a, le dessein suprême qu'il a de glorifier son Fils, on n'a aucun moyen de répondre. Et même là, nos réponses ne sont pas des réponses complètes, mais sont des réponses qui nous permettent d'attendre la révélation de Dieu complète, c'est-à-dire lors de la glorification de son peuple. Donc, voilà un axe qui est très important. Et c'est dans ce cadre général, donc, nous voyons que le dessein de Dieu consiste à faire venir cette postérité promise. Il vient, ce Messie. Et ainsi, dans sa venue, d'ouvrir la porte du salut à tous ceux que Dieu y a destinés. Voilà son dessein, dessein de rédemption. Dans ce grand mouvement, nous devons garder à l'esprit que c'est Dieu qui est le grand acteur. C'est lui qui sauve. C'est lui qui fait ce qu'il faut. Et afin de souligner cela, il y a des grands retards, des grands délais qui interviennent. Là, on en est à 10 années depuis l'arrivée d'Abraham en Canaan. Mais ça fait déjà depuis beaucoup plus longtemps que Dieu l'a appelé. Et il y aura encore plus de temps où il faudra attendre avant déjà la réalisation du prochain chapitre de la promesse pour Abraham. Donc, il y a ces grands retards. Dieu n'agit pas selon le calendrier de l'homme. Et il le fait, il fait cela pour une bonne raison. Le dessein derrière ces délais, ces retards, dans le déroulement du dessein de Dieu, selon la perspective humaine, j'ajoute, ces délais, ces retards servent à montrer l'autre aspect du salut des élus de Dieu. L'homme n'a aucune part à jouer dans l'accomplissement du dessein de grâce. Aucune du tout. C'est une dimension importante, en particulier pour notre étude d'aujourd'hui. Gardons donc cela à l'esprit. Donc on en est resté la dernière fois, dans notre dernière étude, chapitre 15, sur un moment fort. Dieu est venu vers Abraham, il lui a renouvelé sa promesse. Oui, le patriarche aura un fils qui viendra de lui. Et c'est en lui que continuera la promesse jusqu'à sa réalisation. Dieu s'engagea même dans une alliance avec Abraham, ce qu'il n'avait pas besoin de faire, en fait. Mais il s'est engagé pour cela. Et Abraham crut à Dieu, en dépit de toutes les apparences. Une femme stérile, un homme âgé, il a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Comme on a dit, on peut utiliser ce passage-là pour faire toute une étude sur la justification de la foi. Mais comme nous avons par ailleurs nos études en Romains, c'est un meilleur endroit pour le faire. Ici, on voit que, en fait, Abraham a reçu la foi de saisir Dieu à pleine main, et cela lui fut imputé à justice, montrant la relation qu'il y avait entre Dieu et le patriarche. Cette foi du patriarche, comme l'apôtre Paul le souligne avec beaucoup de brio, cette foi du patriarche démontre que le salut de l'homme ne vient pas de lui et qu'il n'y prend aucune part. Donc vous voyez comment tout cela vient bien dans notre panorama général. C'est par grâce que l'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ajoute Paul. Et nous pouvons être surpris donc, après cette grande expérience forte, cette expérience, je dirais, des sommets des montagnes, un moment grandiose au sujet qui nous occupe maintenant, dans ce nouveau chapitre. On peut être surpris de passer de là à ce que nous allons voir, ce que nous avons vu dans notre lecture maintenant. Mais nous ne devrions pas être surpris au vu de ce que je viens de rappeler. Dieu n'est jamais pris au dépourvu par quoi que ce soit que l'homme fasse ou pense. C'est inclus. Alors, il ne faut pas qu'on continue dans le raisonnement humain si on veut comprendre ces choses, mais Dieu va amener des choses qui semblent mettre en péril son dessein de grâce. Comme le texte de Galates nous l'a montré. Si c'est par les efforts de l'homme, ça ne peut pas être par la grâce. Mais Dieu n'est pas surpris. Et il va montrer dans ce passage-là que même si un fils est né à Abraham, ça n'est pas lui. Ça n'est pas la promesse. Donc, voilà ce que nous voyons ici, dans notre passage. Et donc, il est important de bien conserver à l'esprit tout ce cadre général qui nous accompagne pendant toute la révélation biblique jusqu'à l'Apocalypse. Et cela nous aidera beaucoup à ne pas nous perdre dans des conjonctures qui sont bizarres. Et j'en viens à un premier point, parce que en gros ce chapitre est divisé en deux, hein, tournant autour de ces deux femmes. Mais premier point, combine et malheur. Alors jusqu'à maintenant, toute notre attention s'est portée sur Abraham, l'ami de Dieu, le père des croyants. Tout a été en mettant la lumière sur lui. Mais il y a un autre personnage dans cette histoire. Ainsi, le chapitre 16 commence par Saraï, femme d'Abraham. Elle aussi est impliquée dans la promesse. Et on a tendance à l'oublier, parce qu'on voit Abraham, n'est-ce pas? Même si la manière dont elle va être impliquée dans la promesse n'est pas encore claire. Essayons de faire abstraction de ce qui suit. Pour le moment, on n'a aucune idée de comment Saraï va être impliquée, mais elle est impliquée dans la promesse. D'emblée, il nous faut dire qu'il est de coutume de traiter Sarah ou Saraï avec dureté, en particulier dans ce passage. On a tendance à regarder ce passage d'une manière moralisatrice. Notre problème vient la plupart du temps de ce qu'on importe cette femme dans nos coutumes et dans notre culture. Or, Sarah n'appartient ni à l'une ni à l'autre. Comme le souligne Pierre, Sarah est une femme sainte, une femme mise à part. C'est une femme de piété, c'est une femme de foi qui se range derrière et aux côtés de la foi de son mari. Quand on regarde la foi d'Abraham et qu'on admire ce que Dieu lui a donné, il nous faut faire la même chose avec la foi de Sarah. Sarah a, elle aussi, quitté Ur pour aller vers une terre promise sans savoir où elle allait. Elle aussi, après la mort de Terach, a continué avec Abraham, loin du confort de sa famille. Et à cette époque-là, c'était très important pour arriver dans une terre où il y avait une famine. Elle s'est même soumise au stratagème de son mari en Égypte, rappelez-vous, même au point d'y courir un grand risque d'être prise comme femme par Pharaon. Surtout, il est clair que Sarah croit dans la promesse divine. Et ça, c'est important à souligner, parce qu'on l'oublie trop rapidement. Elle croit dans la promesse divine, et je dirais même que son stratagème, sa combine, comme j'ai appelé, dans ce passage-là, provient du fait qu'elle croit. C'est très, très, très surprenant, n'est-ce pas? Quand elle dit à Abraham, par exemple, regardez, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. » Elle ne parle pas avec la voix du dépit. Elle ne parle pas dans la rébellion. Elle n'est pas comme Rachel, la femme de Jacob, dont le cœur, face à sa propre stérilité, le cœur était rempli de haine pour sa sœur, qui, elle, était fertile, et de critiques à l'égard de Dieu et de son mari. Et on peut aller au chapitre 30 de la Genèse pour voir cela. Regardez, 30, premier verset. « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, et sa sœur en avait déjà 3 ou 4, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs !» Quand on est en face de Sarah et qu'on entend ce qu'elle dit à Abraham, c'est un tout autre registre. Elle n'est pas dans la rébellion, dans le dépit. Pas du tout, non. Sarah, elle, se plie à la volonté de Dieu. « Le Seigneur m'a rendu ainsi. » Mais il est le Seigneur, n'est-ce pas? Et elle le fait par la foi. La défaillance chez Sarah n'est pas l'incrédulité, non. Elle croit. Sa défaillance, c'est dans l'incompréhension de ce qui se passe. En réalité, même dans notre passage, Sarah manifeste une grande noblesse d'âme. Elle ne veut pas que sa stérilité soit un obstacle à l'accomplissement de la promesse. C'est une femme de Dieu. Elle est prête, dans une certaine mesure, de prendre une place subalterne, de jouer les deuxièmes violons. Si sa stérilité est là, alors il faut trouver un autre moyen. Et c'est une femme de foi, je le répète. Il faut, pour elle, il faut que la promesse s'accomplisse. Parce que c'est la promesse de Dieu. Et c'est la promesse qui amène le salut. Et cela, la chair ne peut pas le voir. Même elle, la femme d'Abraham, ne peut pas se tenir en travers du passage. Donc vous voyez un peu l'exercice de la foi là. Et bien entendu, tout vrai croyant sait de quoi nous parlons ici. À la fois dans un sens positif et dans un sens négatif. Notre foi en Dieu nous permet, dans nos meilleurs moments, à nous écarter, à prendre la place subalterne. Rappelons-nous ces paroles de foi de Jean-Baptiste. Il faut qu'il grandisse et il faut que je diminue. Tout vrai croyant sait de quoi nous parlons ici. Donc, Sarah n'est pas la méchante qu'on dépeint si souvent. Non. C'est une femme de foi, mais, j'espère qu'on ne va pas se méprendre sur mes paroles, c'est une femme, c'est un être humain. Elle n'est pas parfaite. Donc, venons-en à un sous-point, un premier sous-point. l'idée de Sarah. Parce que Sarah, dans sa foi, a cette conviction, il faut que la promesse se réalise, s'accomplisse. Et donc, elle a une idée. Parce qu'ils sont face, elle et son mari, ils sont face à un mur, n'est-ce pas? Cette idée, elle est simple. Et c'est là que nous devons ôter notre casquette Occident 21e siècle, si je peux dire. C'est là qu'il nous faut entrer dans la culture de l'époque. La suggestion de Sarah n'aurait pas soulevé un seul sourcil dans la culture où elle vivait. Le fait de donner à son mari sa servante comme épouse, en quelque sorte, ça n'aurait pas créé de remous du tout à l'époque. La chose faisait partie de la culture. Par exemple, le code d'Hammurabi, on a entendu parler ça dans nos classes d'histoire, n'est-ce pas, permet exactement la même chose. Ce que Sarah propose, c'est permis dans la culture, je parle. Et c'est pour ça que j'ajoute dans la culture. Vous voyez, même en rapport à la promesse, Sarah n'est pas nécessairement en porte-à-faux. Elle n'est pas nécessairement contre la promesse, parce que la promesse de Dieu parle de descendance, de postérité, de semence. Et Abraham lui-même envisage que ce peut être à travers d'un serviteur. Parce qu'à cette époque-là, ça pouvait se faire, comme ça se fera par la suite dans le monde romain, ce qui nous amène tout le concept de l'adoption. Non, elle n'est pas tout à fait en porte-à-faux à ce niveau-là. Dieu a parlé de descendants, mais Dieu précise à Abraham que non, ce ne sera pas par celui qui est dans sa maison, mais par celui qui vient de lui qu'accomplira la promesse. Or, même quand Dieu précise cela, rien n'est dit au sujet de Sarah. C'est en partie pourquoi elle est prête à s'effacer pour que la promesse se réalise. Donc vous voyez, on est, même dans cette idée-là, on est encore dans le registre de la foi parmi les hommes. Et donc, il faut que nous nous débarrassions de notre bagage culturel pour gagner quelque chose, pour avoir un certain profit, retirer un certain profit de cette situation. Si nous voulons enseigner au sujet de l'union conjugale monogame, selon la Bible, il y a quantité de passages pour cela. Ça n'est pas le sujet ici. Pas du tout. Dans les conséquences, oui, mais ce n'est pas le sujet. Quel est le problème avec l'idée de Sarah? En fait, son problème est bien plus profond et bien plus spirituel que seulement mettre son mari entre les bras d'une autre femme. En fait, elle met en oubli qui est Dieu. Qui est Dieu? En cela, elle suit son ancêtre, Ève. Elle a oublié que c'est le dessein de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Et elle est dans le même registre que Ève. L'une a pris sur elle-même de discuter ce que Dieu avait dit. Elle commence à parler avec le serpent. Au début, il n'y avait pas d'arrière-pensée mauvaise, nécessairement, avec Ève. Mais la fin nous montre autre chose. L'autre femme prend sur elle-même d'aider l'avancement de la promesse de Dieu, de débloquer l'obstacle. Elle le prend sur elle-même. Or, Dieu s'est engagé par alliance. C'est donc sa responsabilité d'accomplir ce qu'il a promis. Si quelqu'un vous promet de faire quelque chose, c'est sa responsabilité à partir de ce moment-là. Alors parmi les hommes, il peut y avoir échec, mais pour Dieu, il ne peut pas y avoir. Et Sarah a tout simplement mis cela en oubli. De la même manière que Ève a oublié que Dieu est Dieu et que elle, créature, ne peut pas interpréter ce que Dieu a dit. Il lui faut simplement obéir. Alors bien sûr, nous ne voulons pas jeter la première pierre, ni à Ève, ni à Sarah, parce qu'on a souvent été, et nous sommes souvent là où elles ont été. Nous sommes faits du même moule, n'est-ce pas ? Le problème, dans un cas comme dans l'autre, c'est que l'être humain n'est pas Dieu. Il n'a pas tout ce qu'il faut à disposition. Et le diable ne tarde pas à prendre Ève dans ses filets. Et voilà la chute. Sarah, pour sa part, a vite fait de comprendre qu'il y avait quantité de facteurs qu'elle ne maîtrisait pas. Tout d'un coup, voilà que la situation, comme on dit chez nous vulgairement ou de façon ordinaire, c'est parti en eau de boudin. C'était pas du tout ce qu'elle avait prévu, n'est-ce pas ? Parce que, quand même, il faut regarder, le plan a bien marché au début. Agar est tombée enceinte et ça n'a pas duré longtemps. Et puis, on voit plus tard que l'enfant est un garçon. Tout va bien, n'est-ce pas ? Ben, pas tout à fait. Car ce n'est pas la voie de Dieu. Et si Dieu attend, ça n'est pas parce que Dieu est en échec. C'est parce qu'il veut montrer qu'il, lui seul, accomplit le salut. Il est souverain. Moïse, en fait, nous donne des indices pour comprendre cela. Par exemple, nous lisons « Sarai prit Agar et la donna à Abraham ». Et cela nous rappelle la situation dans le jardin. La femme prit du fruit, elle en mangea et en donna à son mari qui en mangea aussi. Et Moïse est en train de nous dire, vous voyez, on a le même modèle qui revient. Nous lisons aussi, Abraham écouta la voix de Sarai. Et tout de suite on pense au fait que Adam écoute sa femme, elle prend du fruit. Et bien entendu, ni l'un ni l'autre se souvenait que Dieu avait parlé d'une seule chair, et cela avec grande sagesse. Voyez, Dieu a parlé du fait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, et les deux seront une chair. Voilà un passage qui peut nous servir pour la manière de s'unir. Mais Abraham et Sarai ont oublié que ça, c'est le modèle de Dieu. Et donc, si on ne suit pas le modèle de Dieu, on cherche des problèmes. Et c'est exactement ce qui se passe. Et voilà un deuxième sous-point. Alors, je l'ai intitulé, là encore, pour frapper nos esprits, les hormones. Les hormones. Ce que Sarah a oublié, c'est que Dieu ne met pas des limites arbitraire dans ses plans, dans ses voies avec les hommes. Il connaît sa créature. Il nous a créés d'une certaine manière et nous allons agir selon ses manières. Et très rapidement, Agar réagit à sa grossesse comme une femme. Comme une femme. Elle était maintenant la mère de l'héritier. Alors, qu'est-ce qu'une femme qui est dans ce cas-là fait, n'est-ce pas ? Eh bien, fille des coutumes, c'est elle qui est vraiment la femme centrale maintenant. Et donc, Sarah est mise de côté en quelque sorte. Combien de fois on voit cela ? Sarah, de son côté elle-même, elle fut tout aussi rapide à réagir. Plutôt que de se dire, mais l'essentiel, c'est qu'il y a un enfant qui vient. Non, non, non. Tout de suite, elle réagit comme une femme, dans le ressentiment. Alors, on n'est pas tout à fait étanche à la chose, nous qui sommes des hommes, n'est-ce pas ? Mais voilà, Sarah réagit exactement comme une femme réagit. Et elle refuse de se blâmer, elle refuse de se repentir. Quand elle parle à Abraham, elle ne dit pas « mais j'ai fait une erreur ». Non, non, elle blâme son mari. Et elle traite durement celle qui maintenant devient sa rivale. Sarah n'avait pas prévu ça, parce qu'elle n'est pas Dieu. Elle est une femme. Et Abraham, lui-même, comme un vrai homme pécheur, il réagit en se lavant les mains de tout cela. « Voici, c'est ta servante, tu fais comme tu veux, c'est ton affaire, c'est pas la mienne. » Vous voyez comment on a ici en fait l'image miroir de la Genèse, l'antagonisme qui est entre ceux que Dieu a joints et qui se rejettent la faute l'un sur l'autre, et ainsi de suite. Et ici, c'est exactement la même chose. Chacun est séparé par cette combine. Et pourquoi Dieu permet-il toute cette confusion? N'est-il pas dur, quand même, d'amener toute cette difficulté dans cette famille? Eh bien non! En fait, c'est le péché de l'homme qui est dur. Ici, Dieu montre avec une grande clarté que l'homme ne peut pas prendre la moindre part dans le vrai salut. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait que très peu de choses. Vous et moi, nous n'avons pas tout à notre disposition. On le voit chez nos chefs politiques, on le voit chez nos chefs religieux, encore faut-il qu'ils soient les nôtres, mais on le voit en nous-mêmes. On le voit en nous-mêmes. Non, l'homme ne peut prendre aucune part dans le vrai salut. Et Dieu l'a déjà dit. Mais ici, nous le voyons. N'est-ce pas aussi, hélas, trop souvent vrai de notre expérience? On veut reprendre les choses en main. Même inconsciemment, même en disant le contraire. C'est tellement humain. Ainsi, chaque fois que vous voyez un descendant d'Ismaël, eh bien, mes amis, ne restez pas seulement au niveau ethnique, mais mettez-vous au niveau de Dieu et voyez votre impuissance totale à vous sauver. Est-ce que nous la voyons? Et voyez la grande grâce de Dieu. Parce que nous avons vu en premier point les combines et les malheurs. Et quand l'homme y met la main, il y a des malheurs, n'est-ce pas? C'est cela. Mais maintenant, deuxième point, regardons la miséricorde divine. Comme je l'ai dit, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il sait ce qui va se passer. Et on pourrait dire que avant que Agar atteigne le puits sur le chemin de Shur, l'ange de l'Éternel était déjà là. Les combines humaines mélangées à la nature déchue de l'être humain engendrent le chaos dans la maisonnée de la foi. Tout le monde est en faute, car tout le monde est humain. Vous prenez Sarai, fautive. Agar, fautive. Abraham, pas meilleur. L'arrogance d'Agar, la haine, l'envie de Sarah, la faiblesse d'Abraham. Mais Dieu intervient dans le chaos et il crée la lumière. Il crée la lumière. C'est très intéressant. Ça nous donne espoir. Souvent, on voit notre vie, dans nos meilleurs moments, on voit notre vie comme un vrai chaos, n'est-ce pas? Et tout semble aller de mal en pis. Tout au moins, on le voit comme cela. Dieu intervient même dans ces situations-là. Et je dirais même, il intervient surtout dans ces situations. Premier sous-point, la servante de Sarai. Parce que Sarah réagit à ses combines. Elle voit l'arrogance, le mépris d'Agar, et elle va voir son mari, dit « Fais quelque chose !» Mais monsieur n'est pas prêt à faire quelque chose. Et puis, donc Sarah prend les choses en main et elle maltraite sa servante au point que la jeune fille égyptienne s'enfuit. Et rappelons-nous qu'à l'époque, s'enfuir pour une esclave, c'était la mort. Et la voici dans le désert. Elle est toute jeune. Hein? La voici dans le désert, elle est en direction de l'Égypte. Bien entendu, elle est égyptienne. Même si on la voit maintenant dans notre image, près d'un puits, donc elle a au moins de l'eau, elle est arrivée au bout d'elle-même. Agar, quand elle est à ce puits, elle est vraiment au bout d'elle-même. Retourner en arrière, elle ne le peut pas. Comme j'ai dit, la fuite d'une esclave entraîne la mort. Aller de l'avant, rentrer chez les siens en Égypte, surtout que ça doit faire un moment qu'elle est partie, elle ne peut pas vraiment. Si elle est partie en direction de l'Égypte, c'est probablement plus par réflexe que par réflexion. Pourquoi? C'est une esclave et maintenant elle porte l'enfant d'un étranger. Vous voyez quel genre d'accueil elle peut s'attendre. La chose est vraiment risquée pour elle. Elle est au bout du rouleau, son incapacité la regarde dans les yeux. Et comme on l'a vu tellement souvent dans la parole de Dieu, c'est là que Dieu vient à sa rencontre. Combien de fois il vient là où nous voyons notre incapacité. Notre incapacité est là tout le temps, n'est-ce pas? Mais si souvent, on ne la voit pas. Il est important donc de comprendre qu'en posant sa question, l'ange de l'Éternel ne cherche pas une information. Il lui dit, mais Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu, où vas-tu? Cherche pas à ce qu'elle l'informe sur cela. Non, il ne cherche pas une information. Il se contente de mettre Agar face à son incapacité et à la nature de son cœur. C'est simplement ce qu'il lui dit, parce qu'elle est toujours, même en fuite, elle est toujours servante de Sarai. Même avec l'enfant dans son ventre, l'héritier, comme elle le pense, n'est-ce pas? Même en étant la femme au centre de la chose, elle est toujours la servante de Sarai. Elle ne peut pas s'en sortir. Ce ne serait que si Sarai la franchit qu'elle cesserait d'être la servante. Et cela la suit. Elle ne peut pas s'en défaire. Et l'ange veut lui montrer exactement la nature de son cœur et qui elle est. Elle ne peut pas s'en affranchir, elle ne peut pas non plus s'affranchir de son propre cœur. Si elle fuit loin de Sarai, sa maîtresse, c'est bien sûr en partie parce que Sarai l'a maltraitée. Mais Sarah la maltraite en grande partie parce que Agar l'a traitée avec mépris. Et ça, c'est vraiment le cœur de cette servante. C'est une rebelle. Et elle doit comprendre que cette rébellion va beaucoup plus loin que sa réaction à Sarah. Elle est arrogante et rebelle parce que son cœur est déchu, parce que son cœur est coupé et séparé de Dieu. C'est un cœur humain. Et l'ange de l'Éternel, par sa question, il l'amène exactement à ce point-là, à voir ces choses-là, ces choses contre lesquelles elle court, elle fuit. Sarah fuit, Abraham fuit, Agar fuit. Mais Dieu amène la vérité. Et c'est à ce point que Dieu se révèle à elle en tant que souverain. C'est la première chose qu'il lui montre. Il est souverain, il est le Seigneur. Parce que quand il lui parle, il lui donne un ordre. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent séparer le fait que Jésus-Christ est sauveur et puis plus tard, on va voir qu'il est Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui sauve. Et ici, il lui ordonne de revenir sur ses pas, c'est-à-dire de renoncer au projet de son cœur, c'est-à-dire de renoncer même à sa sécurité. Il lui ordonne aussi de se soumettre à Sarah. Et il le fait parce que lui, il est le souverain absolu. Elle se soumet à Dieu en se soumettant à Sarah. Et la chose est difficile. La chose est difficile. Sarah est blessée. Mais dans cet ordre du Seigneur, dans ce commandement, il y a la grâce. Dieu était en droit de la détruire. Agar s'est rébellée contre le couple de la foi. Elle a quitté la maison d'Abraham, l'ami de Dieu. Dieu peut la détruire. Il est en droit de le faire. Une esclave qui se rebelle contre la famille de la grâce, c'est terrible. Mais en lui demandant de retourner et de se soumettre, Dieu lui promet tacitement qu'il va la protéger, qu'il va l'accompagner et qu'il a un dessein pour elle. Et ça, c'est la grande grâce. C'est pour ça, en partie, c'est la raison pour laquelle Agar dit « Mais est-ce que j'ai rien vu après qu'il m'a vu ? Je suis encore en vie. » C'est un peu comme on avait vu l'autre jour dans le psaume 73, n'est-ce pas ? Et malgré ma bêtise, je suis toujours avec toi. Dieu est juste et Dieu est juge, mais il est aussi rempli de grâce. Il est rempli de bonté, de miséricorde. Il va protéger Agar, il va l'accompagner et il a un dessein pour elle. Voilà le Seigneur qui se révèle à cette étrangère. Le fils qui vient de ses entrailles n'est pas l'enfant de la promesse. La promesse de Dieu ne viendra pas par Ismaël, mais Dieu a un dessein pour lui. Et nous savons, nous qui vivons dans l'ère de la Nouvelle Alliance, nous savons que les portes sont ouvertes même aux enfants, aux descendants d'Ismaël. Dans un certain sens, Ismaël lui-même servira à illustrer l'impuissance de la chair. Et Paul y revient dans le Nouveau Testament, on l'a lu tout à l'heure. Alors, cela bien entendu ne dit rien du statut personnel d'Ismaël. Est-ce que lui-même va connaître la grâce en tant que personne? On ne sait pas. On verra peut-être dans les chapitres qui suivent, n'est-ce pas? Rappelons-nous que Ismaël veut dire « Dieu entend ». Dieu entend. Mais Ismaël sert à manifester la grandeur et la sagesse de la grâce de Dieu. Et nous y reviendrons dans un chapitre ultérieur, à la différence entre la lignée de la promesse et les efforts de l'homme, ce que le texte de Galates nous a bien démontré. Gardons-le à l'esprit. Donc voilà, Dieu vient vers la servante de Saraï. Elle sera toujours servante. Mais Dieu a entendu. Et Dieu entend. Et c'est ce que nous voyons dans notre deuxième sous-point. Ata el roi. Avec l'ordre de Dieu, avec la promesse de Dieu, vient une puissance de vie et une puissance d'union. Ce n'est pas simplement une promesse, mais Dieu s'unit avec Agar. Agar témoigne de cela. Quand elle reprend le chemin vers Mamré, c'est une femme nouvelle. Alors, il est dit dans le Nouveau Testament que son expérience sert une allégorie. Mais elle-même, c'est une femme nouvelle. Elle connaît Dieu désormais. Il n'est plus le Dieu d'Abraham. Vous voyez, Agar a vécu dans la maison d'Abraham. Elle a certainement entendu parler de ce Dieu, le Dieu très haut, n'est-ce pas? C'était le Dieu d'Abraham, le Dieu de son maître. Maintenant, ce n'est plus cela. Il est maintenant pour elle le Dieu qui me voit. Le Dieu qui me voit. Et rappelons-nous, cette autre femme-là à qui Jésus se révèle, et elle revient vers les siens, et qu'est-ce qu'elle dit? Il m'a dit tout ce qui me concernait. C'est le Dieu qui me voit. Même plus que cela. Plus que cela. Quand elle dit au verset 13, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» On peut en fait le rendre par « N'ai-je pas vu le dos ici de celui qui me voit ?» Alors, ça nous semble un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais rappelons-nous qui est-ce qui écrit ces mots. C'est Agar qui les dit, mais c'est Moïse qui les rédige. Et Moïse ne peut pas s'empêcher de penser au jour où il était sur la montagne. Et il a demandé à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu a dit, « Non, tu ne peux pas voir ma gloire, mais tu verras mon dos. » Et ça, c'était l'union, l'intimité entre Moïse et l'Éternel. Et Moïse sait que quand Agar dit cela, elle parle de quelque chose que lui-même connaît. Il y a maintenant union entre l'âme d'Agar, il y a la foi dans l'âme d'Agar et il y a union entre son âme et l'Éternel lui-même. Elle a vu le dos, c'est-à-dire qu'il s'est manifesté à elle. Dieu se laisse approcher en raison de celui, avec une majuscule, qui vient selon la promesse, celui dont Ismaël est une image faussée, celui dont Isaac est une image imparfaite. En vertu de la venue de cet envoyé, de ce Messie, Celui qui est oint, la voie vers Dieu est ouverte. Et par anticipation, par la foi, elle est ouverte pour Agar. Agar est une croyante. C'est merveilleux, n'est-ce pas? On a tendance à la voir comme la servante égyptienne. Non, maintenant, elle est fille d'Abraham. C'est vraiment merveilleux tout ce qu'on peut trouver. Et on peut voir aujourd'hui, grâce à celui que Dieu a envoyé, grâce à ce qu'il a fait, il a ouvert la voie et aujourd'hui, on peut voir celui qui me voit. Je peux voir celui qui me voit. Nous avons donc cette belle image ici du Dieu de l'Alliance. Détournons les regards de toutes ces choses culturelles que nous avons du mal à comprendre dans les décisions de Sarah, les propositions de Sarah et ainsi de suite, les réactions et tout. Non, voyons qui est derrière. C'est le Dieu de l'Alliance. Et de la même manière qu'on met un bijou sur un fond sombre pour faire ressortir l'éclat, la grâce de Dieu se manifeste sur l'imperfection, sur le fond de l'imperfection de l'homme. Même les combines des hommes n'apportent pas le dessein de Dieu, mais elles ne mettent pas à mort le dessein de Dieu non plus. Il est le Dieu qui sauve Agar. Il est le Dieu qui restaure Agar. Il est le Dieu qui restaure Abraham. Nous voyons cela dans le fait que Abraham, lorsque l'enfant naît, il donne à cet enfant le nom que Dieu lui a donné déjà. Et vous voyez qu'il y a dû y avoir grande repentance dans cette maisonnée. Ça n'est pas dit, c'est vrai. Sauf que Abraham a nommé l'enfant Ismaël. Dieu entend. Dieu entend. Oui, l'homme échoue continuellement. Et vous et moi, nous ne savons que trop, n'est-ce pas? On n'arrive même pas à imaginer les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Non, qui aurait imaginé le dessein de Dieu, la croix? Personne, personne. Mais Dieu entend. Il faudra encore 13 années pour que la promesse s'accomplisse, mais Dieu entend. Et tout au long, je pense que Abraham pouvait avoir cette patience. Est-ce que Sarah l'avait? Je ne sais pas. En voyant Ismaël, ça n'est pas lui, mais Dieu entend. Dieu entend. Et pour vous et moi, les choses ne vont pas comme on aimerait qu'elles aillent. Même au niveau de notre relation avec le Seigneur, n'est-ce pas? Même on voudrait le connaître mieux, mais les choses ne vont pas, n'avancent pas, tout cela. Gardons à l'esprit que Dieu entend. Dieu entend. Vous connaissez la promesse de la grâce, et vous savez que le salut est par grâce, mais est-ce que votre cœur est saisi par le fait que le Dieu qui sauve est le Dieu qui entend? Si Dieu attend, ça n'est pas parce qu'il est impuissant. C'est parce qu'il veut montrer que le salut est par grâce. Mais le Dieu qui attend est aussi le Dieu qui entend. Et en cela, nous avons de quoi nous réjouir. Amen.